Et c'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alouette, gentille alouette, un nouveau revers pour les chasses traditionnelles. Les arrêtés pris le 15 octobre dernier pour les autoriser sont finalement suspendus sur décision du Conseil d'État. Des migrants, en majorité des Afghans, occupent toujours la gare de Briançon dans les Hautes-Alpes. Après la fermeture d'un refuge, ils ont été accueillis également hier soir dans une église. Dans ce journal, nous irons au Soudan, à Khartoum, au lendemain du coup d'État militaire. Et puis, le bon moral dans les chaussettes. Une entreprise de chaussettes de Haute-Vienne offre 200 euros de prime exceptionnelle à ses salariés pour faire face à la hausse du carburant.
Et notre invité dans 20 minutes à 7h50 avec Alexandra Ben Saïd, c'est aujourd'hui la comédienne Muriel Robin pour la fiction Doute, diffusée sur Arte.
France Inter.
Un nouveau rebondissement dans le bras de fer entre le gouvernement et les associations de protection des animaux.
Les grives, les merles noirs, les vanneaux, les pluviers dorés, les alouettes des champs peuvent souffler. Le Conseil d'État a donné raison aux défenseurs de la nature. Il suspend les nouvelles autorisations de chasse données par le gouvernement il y a 10 jours. Les juges ont estimé qu'il n'y avait rien de nouveau par rapport au texte présenté en août et déjà retoqué par le Conseil d'État. Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, est soulagé, mais il est aussi en colère et il dit pourquoi, Mathilde Dehimi.
Je suis soulagé parce que une faune qui allait être violentée va être épargnée. Et puis, je suis quand même très déçu de constater qu'on est obligé d'aller deux fois devant le Conseil d'État pour faire reconnaître l'élémentaire, c'est-à-dire le droit. Les chasses traditionnelles appartiennent à un autre temps. Le droit français le juge ainsi, de même que la Cour européenne de justice. Et j'ai du mal à comprendre comment et pourquoi l'exécutif s'obstine à vouloir tuer davantage. Je n'ose pas croire que le ministère, voire l'Élysée, reviennent à nouveau pour tenter de rétablir ces chasses traditionnelles. Le ministère de la transition écologique doit se battre pour préserver la biodiversité, pas pour qu'on la maltraite.
Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO. Un autre homme est en colère, c'est Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Il ne comprend pas, je cite, cet acharnement politico-juridique à emmerder une poignée de Français sur quelque chose d'insignifiant.
Je suis très en colère, mais aussi profondément déçu, profondément choqué. Ce sont des chasses qui n'ont aucun impact sur la biodiversité et qui sont des chasses où la passion est très 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 forte. Ça dépasse la chasse, ça devrait même pas être jugé comme tel. C'est des héritages qui sont, je pense, très importants. Il y a encore des gens qui chassent siffler un oiseau, le faire passer dans un petit collet pour l'attraper. On est proche de l'art, quoi, je veux dire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel de piéger un oiseau? Qu'est-ce que font tous les gamins dans la campagne quand ils ont entre 5 et 15 ans? Ils ont une fronde, ils ont un arc, ils mettent des petits bouts de filet, ils mettent des petits pièges. C'est naturel. Et c'est ça qu'on vient d'arrêter à travers cette décision du Conseil d'État. On est dans le harcèlement rural à l'état pur. Quand est-ce qu'on va nous foutre la paix? C'est scandaleux. C'est une honte.
Les chasses traditionnelles d'oiseaux, un dossier en sursis, puisque le Conseil d'État va maintenant prendre plusieurs mois pour statuer sur le fond. Et puis on en reparle avec votre invité, Jérôme.
À 8h20, avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui sera avec nous.
À Briançon, les migrants ont passé une nouvelle nuit dans la gare. À cela une raison, le tout nouveau centre d'accueil inauguré samedi dernier, il est déjà débordé face à un afflux d'Iraniens et d'Afghans depuis l'Italie. Refuge solidaire, le collectif d'associations, ne peut plus assurer la sécurité de ces lieux de repos aux capacités d'accueil illimitées. Reportage en gare de Briançon de Thibault Lefebvre.
Sur les genoux de Mohamed, une petite fille de tout juste 10 mois.
Monessa.
Elle s'appelle Monessa.
Monessa.
Les familles se sont installées pour dîner sur des couvertures au milieu de la gare, alors que des hommes et des adolescents discutent entre eux sur les côtés. Ils sont presque tous afghans, comme Mojtabar, 13 ans, qui cherche à quitter au plus vite la France.
We want to go to Germany.
On veut aller en Allemagne demain ou après-demain.
Tomorrow we will go.
Car Briançon a toujours été une étape, un lieu de repos sur la route des Balkans qui, pour la première fois depuis 5 ans, a été contraint de fermer.
Ça me met des sanglots.
Jean Gaborio est administrateur bénévole de l'association Refuge Solidaire.
On a courbé le dos, on ne peut pas dépasser 81 personnes. Or, dimanche, on était à 200. On continue notre activité, hein, mais à l'extérieur, mais pas dans les locaux du refuge, puisque c'est trop dangereux.
Le maire de Briançon, Arnaud Murgia, a appelé hier le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'évacuation de la gare et surtout des moyens pour limiter l'afflux de migrants en provenance d'Italie.
On fait face à un pic qui, à mon sens, est très clairement dû à la situation en Afghanistan et qu'il faut que l'État prenne toute la mesure de ses responsabilités en la matière dans les zones frontalières comme la nôtre.
L'État a doublé le nombre de gendarmes. Ils sont ce matin 200 pour épauler la police aux frontières et tenter de refouler les candidats à l'exil.
Thibault Lefebvre en gare de Briançon. Une fusillade hier soir à Lyon dans le quartier de la Duchère. 3 policiers de la BAC ont été pris pour cible alors qu'ils surveillaient un point de deal de trafic de drogue. Pas de blessés. Un seul individu serait en cause. Il est activement recherché par la police. L'affaire avait provoqué indignation et émoi en France. Ouverture aujourd'hui du procès de 2 hommes accusés du meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, une vieille dame juive tuée chez elle en 2018. Yacine Mioub, 31 ans, et Alex Karim Bacchus, 25 ans, s'était rencontré en prison. Il se rejette la responsabilité du meurtre. Quand l'histoire fait écho à l'air du temps, Emmanuel Macron inaugure cet après-midi le premier musée consacré à l'affaire Dreyfus. Il est installé dans la maison d'Émile Zola à Médan dans les Yvelines. Alors même si l'Élysée est sans défense, Simon Le Baron, le moment est forcément très politique. Quelques jours après la sortie d'Éric Zemmour sur ses doutes quant à l'innocence d'Alfred Dreyfus. Simon Le Baron.
Vous plaisantez, j'espère. Les proches du président font mine de s'offusquer quand on tente de replacer ce déplacement dans son contexte, celui d'une montée des discours extrémistes, voire révisionnistes. Surtout, ne pas laisser penser que le chef de l'État se laisserait dicter le tempo. Emmanuel Macron, c'est vrai, avait salué l'ouverture de ce musée dès 2018 au dîner du CRIF. La date de l'inauguration est calée depuis le mois de juillet dernier. Personne, pas même à l'Élysée, ne pouvait prévoir que certains iraient jusqu'à discuter à nouveau l'innocence du capitaine Dreyfus au mépris des conclusions des historiens. Il n'en reste pas moins que le chef de l'État pose aujourd'hui la première pierre d'une contre-attaque pensée, théorisée, comme nous le confiait la semaine dernière un communicant du gouvernement. Un contre-récit historique censé répondre à la réécriture proposée par Éric Zemmour. Et évidemment, confirme ce même conseiller, Alfred Dreyfus fait partie des références que le président souhaite invoquer.
7h36, l'actualité à l'étranger, au Soudan, la rue refuse le coup d'État des militaires.
La population ne veut pas se laisser confisquer sa révolution démocratique amorcée il y a plus de 2 ans avec la chute du dictateur Omar el-Béchir. Des manifestations massives qui ont fait 7 morts, 140 blessés à Khartoum. Sur place, on retrouve Elliot Brachet, correspondant d'RFI pour France Inter.
À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Cette nuit, malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leurs pâtés de maison. Pour eux, le destin du pays se joue ici, dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Certains militants ont trouvé des moyens détournés pour se connecter aux réseaux sociaux. Des scènes de lynchage et d'humiliation ont inondé les fils d'actualité. Des vidéos de femmes rouées de coups en pleine rue par des soldats descendus de pick-up, des étudiants de l'université de Khartoum couverts d'ecchymoses, cheveux rasés après avoir été frappés jusque dans leur chambre à coucher. Face à une répression féroce, les manifestants scandaient hier que leur révolution resterait pacifique. L'association des professionnels soudanais, les comités de résistance ainsi que de nombreux syndicats ont appelé à la désobéissance civile et à la grève générale. Tard dans la nuit, alors que les communications n'était toujours pas rétablie. Certains s'époumonaient encore, les balles ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le silence imposé au peuple.
Elliot Brachet, d'RFI pour France Inter, et Washington réclame un rétablissement immédiat des autorités de transition qui devaient mener le pays à ses premières élections libres. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi en urgence.
Du baume au porte-monnaie des salariés de l'entreprise Brousseau, à 30 km de Limoges.
Le patron de cette usine de chaussettes a décidé de faire un geste pour aider ses employés à faire face aux multiples hausses de prix, en particulier sur les carburants, car bon nombre des salariés habitent assez loin du siège social. Les 60 personnes vont recevoir à la fin du mois, 200 euros de prime spéciale, quel que soit leur salaire ou leur ancienneté. Une nouvelle accueillie avec bonheur par les salariés de cette usine, située donc au quart, à 30 minutes, vous le disiez, de Limoges. Reportage signé Mickaël Chailloux.
Derrière les machines qui grondent, il y a Sylvie. Elle porte un carton rempli de chaussettes.
Je trouve ça super.
Surtout qu'elle fait tous les jours le trajet depuis Limoges.
Toutes les entreprises ne le font pas. Moi, je trouve que c'est bien. Surtout dans cette période qui est vachement dure.
Coralie, qui travaille au service qualité, vérifie une pile de chaussettes. Elle habite en Dordogne, à Jumilhac-le-Grand.
Moi, du coup, j'ai 30 km aller, donc 60 aller-retour. Ça fait un peu de route. En plus, c'est pas forcément de la bonne route. Donc, du coup, ça consomme un peu plus. Mon plat me fait une semaine et demie et encore si je bouge pas les week-ends, donc c'est vraiment bien, ça va bien m'arranger. Si ça pouvait être tous les mois, ça serait encore mieux, mais je pense qu'il faut pas trop en demander, quoi.
Car cette mesure coûte de l'argent au PDG de l'entreprise Brousseau. Son chiffre risque d'être moins élevé en fin d'année, mais tant pis, c'est une manière de remercier les salariés pour service rendu. Émeric Brousseau, le PDG de l'entreprise familiale.
Bah, vous savez, une usine, ce n'est pas qu'un robot. Au milieu, il y a des hommes et des femmes qui créent un produit. Et nous, aujourd'hui, en industrie, sans salariés, on ne fait rien. Donc, vous savez que le marché de l'emploi est très, très serré et c'est très compliqué de trouver des personnes. Donc, il vaut mieux valoriser nos équipes plutôt que de trouver des solutions exotiques.
Le patron assure également que tous les salariés toucheront le 1er décembre leur prime de Noël habituelle.
Mickaël Chailloux de France Bleu Limousin. Une rallonge pour le sport de haut niveau à 3 ans des JO de Paris. Les députés ont voté hier soir cette rallonge de 10 millions d'euros supplémentaires à l'enveloppe globale de 296 millions pour Paris 2024. La France veut intégrer le top 5 mondial, c'est-à-dire 70 médailles environ. Au JO de Tokyo, la France était arrivée cet été 8e avec 33 médailles. Enfin, en Ardèche, un accident de spéléo qui se termine bien. Un homme de 64 ans blessé, coincé dans une cavité à 100 mètres de profondeur, a été dégagé cette nuit par une trentaine de secouristes. Le récit de Clémence Gourdon-Négrini.
L'alerte a été donnée vers 17h hier après-midi par l'une des personnes qui accompagnait cet homme de 64 ans. Blessé à la cheville, il ne pouvait plus remonter seul à la surface. 30 secouristes ont été mobilisés, 15 pompiers spécialisés dans les secours en milieu périlleux et 15 membres du spéléo secours accompagnés d'un médecin et d'un infirmier. Pour rejoindre le blessé, ils ont dû passer par un premier puits de 30 mètres, un second de 90 mètres et enfin emprunter un corridor de 100 mètres. La remontée a démarré vers minuit. Une heure plus tard, le spéléologue était sorti. Il est pris en charge à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze.
Clémence Gourdon-Négrini.
Merci Laurence Thomas. Thomas Legrand à suivre.